Comme vous le savez, aujourd'hui, traditionnellement, c'est le dimanche des rameaux, c'est-à-dire c'est le dimanche, c'est le jour où Jésus est arrivé à Jérusalem sur un anneau. Et on en parlera un petit peu plus cet après-midi. Hein, mais, donc ce matin, je veux plus parler de la croix, parce que aussi c'est la semaine sainte, comme on dit. Je disais hier soir, je crois que toutes les semaines sont saintes pour Dieu, hein. Elles sont saintes pour celui qui le croit, si elles sont consacrées à Dieu. Et donc, mais en tous les cas, c'est la semaine où on commémore la mort de Christ. Donc, je vais parler de la mort de Christ ce matin. Et puis, dimanche prochain, on parlera de la résurrection, puisque ce sera le jour de Pâques. Donc, la résurrection de Jésus-Christ. Je vous invite à prendre vos Bibles. Dans Hébreux chapitre 13, c'est curieux ça, pour la croix de Christ, dans Hébreux, on aurait pensé dans les évangiles. Eh bien, c'est notre point de départ, et puis ce sera là qu'on terminera à la fin de l'heure. Donc, Hébreux chapitre 13, et je vais lire les versets 11 à 13. Hébreux chapitre 13 et les versets 11 à 13. Dit les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. Alors, mon verset clé, c'est sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. Vous dites, ouh, voilà, je ne suis pas sûr que j'ai tout compris là. Eh bien, c'est pour ça qu'on est là. Vous savez, il y a des choses dans le Nouveau Testament qu'on ne peut pas comprendre à moins de comprendre l'Ancien. Et puis, les choses de l'Ancien Testament ne sont pas claires tant qu'on n'a pas vu le Nouveau Testament. Hein, c'est pour ça que la Bible se trouve tous sous la même reliure. Parce que pour comprendre pourquoi Christ est mort sur la croix, pourquoi il est mort hors de Jérusalem, pourquoi il fallait que ce soit un sacrifice sanglant, eh bien, il est important de comprendre les principes que Jésus a enseignés, que Moïse a enseignés, hein, qu'il avait reçu de Dieu, qu'il a enseigné au peuple d'Israël dans le désert. Il y avait eu une situation, ils avaient construit le tabernacle. Juste pour vous donner une idée, le tabernacle, c'est une tente. Hein, le mot tabernacle veut dire une tente. C'était une tente qui avait deux chambres. Une qui faisait un tiers et l'autre qui faisait deux tiers. Celle qui faisait un tiers, la plus petite, était au fond. Et elle était appelée le lieu très saint ou le sanctuaire. Et c'est là où se trouvait l'arche de l'Alliance. Et qui, symboliquement, cette pièce-là représentait la présence même de Dieu parmi le peuple. La pièce précédente, la première dans laquelle on accédait, quand on rentrait dans cette tente, eh bien, c'était là où se trouvait d'un côté le chandelier, à 7 bras, et de l'autre côté, il y avait une table avec le pain, 12 pains qui étaient remplacés chaque jour. Et puis après, il y avait, juste avant le voile qui faisait la séparation, eh bien, il y avait un autel, l'autel des parfums, qui représentait les prières. Et il y avait constamment une fumée odoriférante qui montait et qui exprimait le principe des prières qui montent constamment. Alors, c'est donc ici... il y a eu un problème, c'est qu'un jour, deux des fils de Aaron, le frère de Moïse, souverain sacrificateur, eh bien, deux des fils, ils n'ont pas fait, par négligence peut-être, ou par, en tous les cas, ils ont pris des charbons, de n'importe quel feu, et ils ont mis les encens dessus, puis ils sont rentrés dans le tabernacle, et Dieu les a frappés. Parce qu'il fallait prendre des charbons de l'autel, et pas de n'importe quel feu. Alors, ça fait un choc, hein, vous comprenez, vous imaginez, ça fait un choc que tout d'un coup, les deux fils meurent en faisant du bien. Hein. Ils avaient l'intention de servir Dieu, mais bon, Dieu est saint. Mais en tous les cas, alors, Moïse, l'Éternel va parler à Moïse. Alors, pour cela, on va partir dans Lévitique chapitre 16. Lévitique chapitre 16, et là, on va camper un petit moment. Lévitique chapitre 16, et justement là, l'Éternel va parler à Moïse. Il dit, Moïse, écoute, tu vas voir ton frère Aaron, et tu lui dis, écoute, ne rentre pas n'importe quand, n'importe comment, dans le sanctuaire. Et on ne rentre pas, hein, je vous ai dit que c'est le sanctuaire représentait la présence de Dieu. Il a dit, tu diras à ton frère, tu ne rentres pas n'importe quand, n'importe comment, dans le sanctuaire. En fait, je vais te dire comment tu peux rentrer. Et donc, ici dans ce Lévitique chapitre 16, c'est un chapitre qui est très important. Il y a beaucoup de détails, alors je vais essayer d'expliquer. Il y a beaucoup de détails, mais ces détails sont importants pour qu'on comprenne pourquoi les choses se sont passées telles qu'elles se sont passées lors de la mort de Christ. Alors, je lis les premiers versets, je vous ai donné le temps de trouver. Alors, Lévitique chapitre 16, et je lis à partir du verset, je lis les versets 1 et 2 là tout de suite. Dit l'Éternel parla à Moïse après la mort des deux fils d'Aaron qui moururent en se présentant devant l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, parle à ton frère Aaron afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire au-dedans du voile devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Alors il dit, tu diras à ton frère que bon, la première pièce, donc la plus grande, là, il rentrait tous les jours, il y avait selon certains règles. Mais il a dit, celle qui est derrière, alors là, et il ne doit pas rentrer n'importe comment, n'importe quand, parce que le risque, c'est de mourir. Et c'est sûr, vu ce qui venait d'arriver, eh bien, tout le monde était très sensible. Alors, verset 3, il dit, « Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Hein, » voilà, il voyait le processus. Il y a toute une cérémonie, il y a tout, c'est vraiment très, très strict. Mais comprenons aussi, je vais dire en même temps, je vous ai dit que le sanctuaire représente la présence de Dieu, et le souverain sacrificateur, c'est le prêtre qui représente l'être humain qui veut venir à Dieu. Hein? Et donc, déjà, le premier message, c'est, écoute, tu diras à tout le monde qu'on ne rentre pas dans la présence de Dieu n'importe comment. C'est, on ne rentre pas comme ça, hein? Comme dans un moulin, comme on dit. Il y a des règles qu'il faut respecter pour entrer dans la présence de Dieu. Ça va être compliqué parce qu'il y a deux choses qui se passent en même temps. Il y a Aaron qui devra se préparer pour entrer, et après il y a aussi toute une cérémonie pour qu'il puisse rentrer pour le peuple. D'abord, il doit rentrer pour lui-même, et ensuite, il rentre pour le peuple. Donc, je vais avancer doucement. Hein. Alors, la première chose, je lis à partir du verset 4. Il dit, « Il se revêtira de la tunique sacrée de lin et portera sur son corps des caleçons de lin. Il se ceindra d'une ceinture de lin et il se couvrira la tête d'une tiare de lin. Ce sont les vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. Donc, première chose, il y a un lavage du corps, et puis après, il revêt les vêtements consacrés qu'on ne porte que dans le tabernacle, dans le service. Hein, ce n'est pas des vêtements de tous les jours, c'est les vêtements, où, c'est les vêtements qui le consacrent, fait de lui le prêtre, le souverain prêtre. Donc il y a cette couverture, il y a cette consécration, et Jésus avait besoin pourquoi il a vécu 33 ans, s'il n'était venu que pour mourir, et bien pendant 33 ans, il a permis aux gens de voir de quoi il était vêtu, et toute sa vie, il était consacré à Dieu. Hein, c'était donc déjà on le voyait par son comportement, par la vie qu'il menait devant les gens. Eh bien, il était lavé et il était consacré. Donc c'était important. C'était pas juste pour Jésus, c'était une souffrance que déjà de vivre sur terre, hein, sans parler de ce qu'on lui a fait voir. Mais il doit avoir cette apparence devant le peuple, comme quoi il est consacré à Dieu, il est digne de faire cette œuvre. Ensuite, je passe au verset 3, je reviens donc sur le verset 3, il dit, il prendra, donc à Aaron, voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire, il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Première chose, il prend un taureau et un bélier. Un taureau, c'est pour l'expiation. L'expiation, c'est-à-dire, c'est où on paye pour le péché. Et un bélier pour l'holocauste. L'holocauste, c'est la manière dont c'est une offrande qu'on donne pour remercier Dieu, pour glorifier Dieu. Hein, c'est l'offrande de louange. Tandis que l'autre, l'expiation, c'est pour le péché. Donc ça, c'est pour lui. Au verset 6, il dit, « Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. » Première chose, il faut que déjà lui, il soit pur pour entrer. Donc, il doit déjà immoler, égorger ce taureau, recueillir le sang, et puis il recueillera de sang, et de ce sang, eh bien, il le prendra, il rentrera dans le tabernacle, et il pourra aller derrière le voile, et là, il présente le sang devant Dieu, le sang du sacrifice pour ses péchés, pour obtenir le pardon de ses péchés, afin d'être en état pour pouvoir aller faire quelque chose pour les autres. Hein, parce que celui qui n'est pas sans péché ne peut pas aider celui qui est pécheur. Hein. Versets 11 à 14. Alors que Aaron offrira son taureau expiatoire et fera l'expiation pour lui et pour sa maison, il égorgera son taureau expiatoire. Il prendra un brasier plein de charbon ardent ôté de dessus l'autel de l'Éternel. Voilà, hein. Il ne va pas faire l'erreur qu'ont fait ses fils. Et deux poignées de parfum odoriférant en poudre, il portera ces choses au-delà du voile. Donc, quand il aura pris le taureau, il recueillera du sang dans un bol. Et puis, il prendra un encensoir avec du charbon. Il mettra du parfum odoriférant dessus. Et puis, avec cela, il rentre derrière le voile. Et puis, il laisse brûler l'encensoir. Donc, bien sûr, il y a une fumée qui se dégage. Et puis, je vous fais remarquer qu'il n'y a pas de fenêtre dans ce tabernacle. Donc, c'est sombre. Hein. Là, derrière, c'est noir. Il n'y a pas de lumière. Dans la première salle, je vous ai dit, il y a un chandelier. Donc, il y a un peu de lumière. Dans la deuxième, il n'y a aucune lumière. Hein. Quand il rentre dedans, il ne voit rien. Et puis, c'est là où il va trouver le propitiatoire, cette table d'or, sur lequel il va asperger du sang, et ce sera le sang est là pour expier, pour couvrir son péché, symboliquement. Hein. Et ensuite, donc, Voilà, oui, alors je m'étais arrêté au verset 12, hein, 13. Il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel, afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage. Et il ne mourra point. Verset 14, il prendra du sang du taureau, il le fera l'aspersion avec son doigt sur le devant du propitiatoire vers l'Orient, et avec son doigt, sept fois l'aspersion du sang devant le propitiatoire. Donc voilà, le sang est présenté à Dieu. Ensuite, il continue, maintenant qu'il a réglé les choses pour lui-même, eh bien, maintenant, il s'occupe du peuple. Donc, au verset 15, verset 15, maintenant, c'est pour le peuple. Avant de lire le verset 15, je vais remonter au verset 5. Je vais remonter au verset 5, où il dit, « Il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël deux boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier. » Donc il y avait un taureau et un bélier pour le sacrificateur. Il y a deux boucs, hein, deux boucs plus un bélier. Deux boucs pour l'expiation et un bélier pour l'holocauste. Donc maintenant, si je lis au verset 15, après qu'il ait réglé les choses pour lui-même, alors il dit au verset 15, il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple. Le bouc expiatoire dit, ah mais je croyais qu'il y en avait deux. Oui, il y en avait deux. On remonte. Regardez au verset 8. Verset 7. Il prendra les deux boucs et il les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera le sort sur les deux boucs. C'est-à-dire il va tirer au sort. Un sort pour l'Éternel, un sort pour Azazel. Donc il y a deux boucs. Entre les deux boucs, il va tirer au sort. Il y en a un qui va être pour l'Éternel, il y en a un qui va être pour Azazel. Je vous expliquerai ce que c'est qu'Azazel après. Et donc, c'est le bouc qui est pour l'Éternel qu'il va prendre. Là, au verset 15, il va prendre le bouc qui est pour l'Éternel et il l'égorgera, il récupérera le sang et il le portera au-delà du voile. Donc, c'est ce bouc-là qui est pour le peuple. Il prendra ce sang et il pénétrera. Maintenant qu'il lui a eu ses péchés pardonnés, il peut entrer et représenter le peuple. Et il fera ce qu'il a fait pour lui-même, il le fera pour le peuple, derrière le voile, sur le propitiatoire. Et verset 16, c'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause des impuretés des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il dit, ah oui, d'accord, j'ai compris, le taureau et le bouc à l'Éternel sont équivalents. Hein, l'un c'est pour Aaron, l'autre c'est pour le peuple. Il y a un bélier pour Aaron, il y a un bélier pour le peuple, celui-là on va voir après ce qui arrive. Mais le deuxième bouc, donc le bouc pour Azazel, eh bien, voilà ce qu'il fera au verset 20. Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation, pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant, donc le deuxième sur lequel le sort a été pour Azazel. Et Aaron posera les deux mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Le bouc portera sur lui toutes les iniquités dans une terre désolée. Il sera chassé dans le désert. Donc tout cela est symbolique, hein? Mais c'est pour comprendre, c'est symbolique, mais pour qu'on comprenne. Donc ce deuxième bouc, eh bien, il pose les mains dessus, il confesse les péchés, donc il charge le bouc de tous les péchés, symboliquement, hein? Il charge tous les péchés sur ce bouc, et après il y a un homme qui prend cet homme, et puis qui va l'emmène au fond dans le désert et le perd, pour qu'on ne puisse plus le retrouver. Il représente le fait que notre péché est emmené là où on ne peut plus le trouver. Il y avait une fois, il y avait Corrie ten Boom, qui est un juif qui avait été qui est morte dans les avec le nazisme. Et mais un jour, elle écrit, elle dit Dieu, il a pris mon péché, il a jeté ça dans le fond d'un lac, et après il a mis un panneau pêche interdite. On n'a pas le droit de revenir. C'est on n'a plus à faire. Ben là, c'est, symboliquement, c'était un peu ce qu'ils ont fait, ce bouc pour Azazel, et bien qui veut dire ben c'est celui qui est envoyé, qui c'est lui qu'on ne revoit plus. Et ben ce bouc là, et ben il est pris dans le désert, il est lâché dans nulle part, et puis l'homme revient, il l'abandonne, et symboliquement le péché est emporté au point qu'on ne puisse plus le retrouver. Donc, on arrive au verset 23. Aaron entrera dans la tente d'assignation, il quittera les vêtements de lin qu'il avait mis en entrant dans le sanctuaire, il les déposera là, il lavera son corps avec de l'eau dans un lieu saint, c'est-à-dire un lieu consacré à cela, et il reprendra ses vêtements, et il sortira, et voilà, c'est maintenant qu'il va offrir les holocaustes. Donc, il y avait un bélier pour lui, et il y avait un bélier pour le peuple. Hein, donc, il sortira, il offrira son holocauste et l'holocauste du peuple, et fera l'expiation pour lui et pour le peuple. Il brûlera sur l'autel la graisse de la victime expiatoire. Il brûle que la graisse. Hein. Mais alors, qu'est-ce qui arrive ? Eh bien, c'est là où on arrive, on va arriver enfin sur ce qui va nous expliquer ce qu'on a lu dans l'Épître aux Hébreux. Parce que là, il nous dit, donc ils ont les carcasses maintenant. Hein. Ce qu'il a brûlé sur l'autel, c'est uniquement la graisse des victimes expiatoires, mais on a quatre carcasses là. Hein. Il y a les carcasses des animaux. Et au verset 27, on emportera hors du camp le taureau expiatoire et le bouc expiatoire dont on a porté le sang dans le sanctuaire pour faire l'expiation. Et l'on brûlera au feu leur peau, leur chair, leurs excréments, c'est-à-dire tout entier. Hein, tout ce qui reste, tout sera brûlé, consumé entièrement. Mais en dehors du camp, pas sur l'autel, mais en dehors du camp, dans un endroit, bon, ils avaient un endroit consacré pour cela. Et verset 28, celui qui brûlera lavera ses vêtements, son corps dans l'eau. Après cela, il rentrera dans le camp. Donc, et c'est là. Alors, maintenant, quand je reviens à l'image de la croix, hein, ce n'est que lorsque tout cela, tout ce qu'on vient de dire, et réaliser que le peuple qui est là devant le tabernacle ce jour-là, eh bien c'est que à ce moment-là qu'ils peuvent se dire ah maintenant les choses sont réglées avec Dieu. C'est que tout cela ils peuvent considérer que leur péché est expié. Quand on parle de Jésus, eh bien il n'aura pas besoin de faire ce que Aaron fait. Parce que lui, il était sans péché. Jésus était sans péché. Aaron devait d'abord se purifier lui-même pour pouvoir servir le peuple. Jésus, eh bien, on l'a observé pendant 33 ans et demi et il était sans péché. Donc, il n'avait pas besoin d'offrir de sacrifice pour lui-même. Hein, il aurait eu besoin de quelqu'un qui meure sur la croix pour lui pour qu'il puisse mourir sur la croix pour quelqu'un d'autre. Mais il était sans péché. Et pourquoi il était sans péché ? Eh bien, parce qu'il n'était pas descendant d'Adam. Parce qu'il n'est pas né d'un homme. Il est né de la femme, il a reçu un corps, il a reçu une nature humaine. Mais il n'est pas descendant d'Adam, donc il n'a pas la nature pécheresse. Et il est resté sans péché. Satan a essayé de l'éprouver, mais ça n'a jamais pris. Et donc, lui, il n'avait pas besoin de porter, d'aller déjà une fois porter du sang pour lui-même dans les lieux célestes, il a pu passer directement Et Jésus-Christ a joué le double rôle. Il a été le rôle du premier bouc pour l'Éternel. Il a rempli le rôle du deuxième bouc qui emporte le péché au loin. Et il a joué le rôle du bélier qui était l'offrande d'Holocauste. Finalement, vous dites sur la croix, on pourrait dire qu'il y a deux sacrifices. Hein. Il y a le sacrifice d'expiation et ça prenait trois animaux pour vraiment représenter ce que Jésus a fait sur la croix. Il y a sa mort et son sang qui a été versé et que lui-même, il nous dit, qu'il a porté dans le lieu très saint. Lisons dans Hébreux chapitre 9, hein, maintenant on revient dans Hébreux. Hébreux chapitre 9, versets 23 et 24. Hébreux 9, 23 et 24. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le soient par un sacrifice plus excellent que cela. Donc il a expliqué, hein, je ne vais pas vous donner toutes les références là, mais en fait Moïse, quand il a construit le tabernacle dans le désert, c'était selon le modèle que Dieu lui a montré. Hein, il lui a montré un modèle qui est dans le ciel. Et donc tout cela, tout ce qui était sur terre n'était que symbolique et pour nous aider à comprendre. Mais il dit que oui, il fallait purifier tous les éléments qui étaient sur terre, hein, sur le tabernacle terrestre et tout ça, il fallait le purifier, il fallait le consacrer, il fallait sanctifier tout cela. Mais il dit, mais pour celui qui est dans le ciel, ben, il y a rien à préparer, il est saint. Alors il dit au verset 24, « Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. » Donc Jésus, quand il est monté, hein, son ascension, il est monté dans la gloire, il est allé dans le lieu saint, le vrai, pas ce que Aaron faisait dans quelque chose de symbolique, mais il est allé dans le vrai, et il est allé pour nous qui croyons. Hein, pour obtenir, finalement, il a porté son sang, qui était, donc lui, il a été le bouc expiatoire, hein, il a porté son sang jusqu'à dans la présence de Dieu, et il a obtenu l'expiation de nos péchés, donc que le péché soit payé. Et ensuite, vous vous souvenez du détail, on a dit, le sacrifice était porté, le sang était porté dans le lieu très saint, mais le corps, la carcasse qui restait, devait être consumée en dehors du camp. Et donc, Jésus n'a pas été crucifié dans le temple, parce que ce n'est pas là que ça devait être. Il a été porté dehors de Jérusalem, au-delà de la porte. Dehors. Et c'est là qu'il a été. Bon, les Romains, ils ont fait ce qu'ils avaient l'habitude de faire, mais ils ont fait exactement ce qu'il fallait faire. Et ils ont sacrifié, Jésus a été sacrifié en dehors du camp. C'est là où il a pu, hein, c'est là où le sacrifice a été consommé, tout a été réalisé. Et là, sur la croix, et c'est pour ça que Jésus a pu dire, une des paroles de Jésus, c'est « Tout est accompli ». Tout est fait, tout s'est passé comme ça doit se passer. Et je reviens à Hébreux 13, versets 11 et 12. Maintenant, j'ai relis, hein, peut-être que vous n'avez pas compris quand j'ai lu la dernière fois. Mais regardez maintenant, Hébreux 13, versets 11 et 12, avec tout ce qu'on a dit, relisons ces versets. Il dit, donc, les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. Maintenant, vous avez compris. Hein, tout ça, hein, il fallait lire tout Lévitique 16 pour comprendre et dire oui, ben oui, c'est vrai. Les corps ont été portés hors du camp. les corps dont le sang a été porté dans le sanctuaire, eh bien, ces corps ont été portés hors du camp. Eh bien, de la même manière, Jésus, son sang a été porté dans les lieux célestes, mais son corps hors du camp. Et dit, c'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors des portes. Donc, Jésus-Christ, même le fait qu'il soit crucifié dehors sur le mont Golgotha, hein, eh bien, tout, c'était nécessaire pour que on puisse être sauvé, que le sang de Christ puisse nous racheter. Donc, c'est pas seulement le fait de mourir en martyr, c'est pas ça qui fait de lui un sauveur. C'est le fait qu'il est mort comme le bouc de l'Ancien Testament. Il est mort et selon le rituel que Dieu avait donné à Moïse, eh bien Jésus l'a accompli, il l'a respecté jusqu'au bout. Et donc, il y a pardon des péchés, il y a expiation des péchés. Donc Jésus a rempli toutes les conditions nécessaires pour obtenir l'expiation des péchés. Faites marche arrière, on revient à Hébreux 9. Hébreux 9, 26. Je vais commencer au verset 25, c'est le début de la phrase. Hébreux 9, 25 et 26, il dit « Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire pour offrir un autre sang que le sien. » Donc il dit, voilà la faiblesse de l'Ancien Testament, c'est que chaque année, il fallait recommencer. Il dit, mais Jésus n'a pas besoin de refaire. Autrement, il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Mais maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour effacer le péché par son sacrifice. Donc il dit, si oui, Aaron, il devait y aller régulièrement, puis après Aaron mourait, puis après il y a un autre souverain sacrificateur, tout ça. Mais Jésus-Christ, lui, il est toujours en service, il n'est pas mort, il est ressuscité, il est dans la présence de Dieu, et continue, il n'a pas besoin de remourir, il est mort une seule fois pour tous les hommes. Parce que lui, ce n'était pas le symbole, lui, c'était le vrai sacrifice. C'était Jean-Baptiste qui avait dit de lui, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Donc, il était réellement le sacrifice. Et ce qu'il a accepté. Et il y avait un détail, c'est que pour les enfants d'Israël qui se trouvaient là durant cette cérémonie, et quand Aaron rentrait, il le voyait rentrer, et puis il est dans le tabernacle, il ne voit rien, et il y a comme un suspense là, tout le temps, parce que le risque c'était de mourir, si les choses n'étaient pas faites correctement, le risque c'était de mourir. Donc s'il ne réapparaissait pas, c'est que ce n'était pas bon. Mais s'il réapparaît, ah, c'est bon, ça s'est bien passé. Pour vous souligner cela, vous vous souvenez quand Zacharie, le mari d'Élisabeth, lui faisait le service dans le temple, et puis il est resté plus longtemps que prévu. Et les gens, ils commençaient à se faire du souci. Et puis quand il est sorti, il ne parlait pas. Alors, ils ont dit, bon, il a dû avoir une vision, il a dû voir quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est passé là-dedans. Mais il n'est pas mort, mais bon, il y a quelque chose qui s'est passé. Parce que c'était important. Mais regardez, vous êtes dans Hébreux chapitre 9. Regardez au verset 27. Il dit, « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois pour ceux qui l'attendent pour leur salut. » Il dit, c'est la même image, dans le sens que Jésus est monté dans la gloire, et puis tout ce qu'on attend, c'est qu'il réapparaisse pour nous prendre. Quand il réapparaît, alors là, par la foi, nous croyons que tout s'est bien passé. En fait, on a quand même une petite chose qui nous permet de savoir que ça s'est bien passé. C'est parce que le Saint-Esprit est venu. Le Saint-Esprit est venu 10 jours après l'ascension. Donc, on avait un signe déjà que les choses s'étaient bien passées. Mais il va réapparaître. Et il réapparaîtra pour prendre ceux qui l'attendent. Hein, je souligne, c'est pas, c'est-à-dire Christ est mort pour que tous puissent recevoir, mais il faut accepter pour en bénéficier. Hein. C'était comme le frère français tout à l'heure avec son image du paquet qui est posé devant la porte. Hein. Si on n'ouvre pas la porte pour le prendre, eh bien, on ne l'a pas. Hein. Et donc Dieu nous offre un cadeau, mais il faut quand même le recevoir. Alors, je reviens donc à ce que Christ a subi. Chapitre 12, donc Hébreux 12, et je lis les versets 1 et 2. Hébreux chapitre 12, il dit « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, donc parlant du chapitre 11, hein, parce que bon, les chapitres ils se suivent, donc chapitre 11, c'est tous ces hommes de la foi sont là, ils nous ont précédés, il dit « Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous environne, enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est offerte. » Il parle de cette vie chrétienne comme une course. Si on vous demandait de faire une course, eh bien, vous ne voyez pas les gens sur la piste, là, avec bouteilles d'eau, sac à dos, et puis son téléphone, et puis le truc dans les oreilles, et puis tout chargé, et prêt à courir. Non, non, il se décharge de tout. Il n'y a rien, il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien du tout. Il est au strict minimum, plus léger possible, pour courir. Il dit, eh bien, nous aussi, si nous allons courir pour Dieu, eh bien, il faut se défaire de tous ces liens et toutes ces choses qui sont de la vie, de tous les jours, qui ne sont pas utiles, afin de pouvoir courir fidèlement ce chemin, cette course. Et donc il dit, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, qui se colle à nous si facilement, et courons avec persévérance, c'est-à-dire sans s'arrêter, dans la carrière ou dans la voie qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus. Hein, bon, quand on fait une course, on ne regarde pas n'importe où. Hein, on regarde au but. Et on ne regarde pas ailleurs. Hein, ce n'est pas le moment pour faire du tourisme ou pour regarder les petites fleurs et puis les abeilles, ce qu'elles font sur les fleurs. Hein, on regarde sur le but. Il dit, et les yeux fixés sur Jésus-Christ. Et Jésus, pourquoi sur lui? Ben parce qu'il est justement celui qui suscite la foi et qui mène à la perfection. Donc c'est lui qui nous permet la foi de développer et puis d'aboutir. Hein. Il ajoute, en échange, hein, donc lui qui en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Oui, il ne s'est pas laissé arrêter par la moquerie, par les paroles, les accusations, tout ce qu'on pouvait dire sur lui, ce que les gens pouvaient penser de lui, il ne s'est pas laissé arrêter par cela. Le résultat, c'est qu'il a été juste dans la présence même de Dieu. Il dit donc, ayant les yeux fixés sur lui, lui qui a été, il nous a devancés. C'est pour ça qu'il est le chemin. Hein, c'est lui qui a tracé la route déjà. Il n'est pas là en train de dire, cours par là, il a dit, suis-moi. Hein? Nous ne devons pas, nous non plus, hein, puisque Jésus a subi l'opprobre de la croix pour nous, eh bien nous ne devons pas avoir honte pour lui, hein, dans ce monde. Hein. Si lui il a fait ça pour moi et j'ai tout à gagner dans cela, maintenant je moi d'identifier à lui, je dois vivre pour lui et ne pas me laisser arrêter et embrasser. Ou freiné ou ralenti par ce que les gens peuvent dire. Le chapitre 13, verset 13, Hein, c'était le verset, je vous ai dit, hein, par lequel on va commencer, par lequel on va terminer. Donc, Hébreux 13, comme par hasard, il vient après le verset 11 et 12, mais dit, mais vu cela, vu que Jésus a tout fait pour que nous puissions avoir l'expiation de nos péchés, verset 13, sortons donc pour aller à lui hors du camp en portant son opprobre, hein, son nom. Hein, nous portons son nom, je me dis chrétien, je m'associe à Christ. Eh bien, ce que les gens diraient de Christ, ils le disent sur moi, mais ce n'est pas grave. Je continue. Hein. Je voudrais lire un verset dans 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6, il nous parle justement de ce besoin de nous démarquer du monde et de nous associer à Christ. Donc je lis ce passage dans 2 Corinthiens chapitre 6, du verset 14 jusqu'au premier verset du chapitre 7. Hein, donc c'est le même passage, c'est dommage qu'il y ait eu une coupure juste là. Mais donc c'est le verset 14 jusqu'au premier verset du chapitre 7. Il dit, ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug étranger. Donc ne vous liez pas avec quelqu'un qui n'est pas croyant. Le mariage, mais d'autres choses aussi. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Bélial, c'est le diable. Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu, du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Hein? On aime bien cette pensée. Ah, Jésus est au milieu de nous. Ben, s'il est au milieu de nous, ça veut dire que cet endroit devient un temple. Hein, c'est le temple, c'est l'endroit, c'est la maison d'un Dieu. Donc, si mon corps est le temple du Saint-Esprit, mon corps, c'est parce que le Saint-Esprit est Dieu. Si notre rassemblée, si Dieu est présent, ça veut dire que ça devient un temple. Si ça devient un temple, on ne fait pas n'importe quoi. Hein. C'est pas un cinéma, c'est pas une boîte de nuit, c'est un temple. Et donc, il dit, si nous voulons nous associer à Dieu, si nous appartenons à Dieu, alors on ne mélange pas. Ou tu marches dans la lumière, ou tu marches dans les ténèbres. Ou tu marches dans la fidélité, ou tu marches dans l'infidélité. Ou tu marches avec les idoles, ou tu marches avec Dieu. Mais on ne peut pas faire les deux en même temps. C'est parfois... Avec ma femme, elle est en train de conduire, elle me dit « Quel côté je dois tourner ?» Je lui dis « À gauche, à gauche, à gauche !» Et puis elle est là, elle me dit « C'est pas clair !»« À gauche, c'est pas à gauche, là. À gauche, c'est par là !» Mais il y a des chrétiens qui sont là, ils sont en train de vivre comme ça. Il y a lumière et ténèbres. C'est pas clair. Et on ne peut pas faire les deux. Il dit verset 17, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, il dit, puisque Dieu a fait tant de choses pour nous, eh bien purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Il dit, Dieu a fait tout cela pour nous. Nous avons les promesses que nos péchés sont pardonnés, que nous avons une place dans le ciel. Eh bien, si je sais que je vais vraiment aller au ciel, eh bien, je commence à me préparer. Je commence à me comporter comme quelqu'un qui y va au ciel. J'ai rencontré une fois quelqu'un qui dit, moi, je vais aller en France, m'installer en France. Est-ce que tu as commencé à apprendre le français ? Ah non, bah alors tu racontes des bêtises. Si tu veux aller là-bas, c'est vraiment si l'intention d'aller là-bas et t'intégrer là-bas, bah, tu commences à parler français. Mais quand tu veux, tu as l'intention d'aller au ciel, tu commences à parler le langage du ciel et tu laisses tomber le langage des gens du monde. Hein, on doit purifier le langage, les actions, le comportement, les pensées, les activités, les passions, tout doit se... Parce que je sais que je vais au ciel, je suis sur le chemin étroit. Et ces pensées, je les ai tirées de l'Épître aux Hébreux. L'Épître aux Hébreux, ben c'est aux Hébreux, hein, donc c'est des gens qui étaient d'origine juive, qui avaient pendant un temps marché avec Christ. Ils avaient suivi les chrétiens, ils avaient commencé à marcher avec eux, et puis après ça a commencé, les chrétiens au début ça allait très bien, mais après ça a commencé à avoir la persécution, les difficultés, tout ça. Oh, ça c'est un chemin, il est un peu trop difficile, et c'est des gens qui ont fait marche arrière. Et puis ils sont retournés dans le judaïsme. Alors, cet épître s'est écrit justement à ces gens-là qui avaient marché pendant un temps, puis après qu'ils se sont rétractés, il a dit, vous ne pouvez pas vous rétracter comme ça. Vous avez, Jésus a tant fait pour vous. Jésus a été jusqu'à, il a subi l'opprobre. Eh bien, allez jusqu'au bout avec lui. Il a été jusqu'au bout pour vous. Allez jusqu'au bout avec lui. Ne vous rétractez pas comme ça. Dis, j'ai reçu Jésus parce que je voulais mes péchés pardonnés. Je vais aller au ciel, mais sinon, je veux encore mes copains. Ah, il dit, il faut choisir. C'est pas, on n'est pas là pour embêter le monde, mais on est là. Si on croit en Dieu, eh bien, il faut que ça se voit. Il y a trop de gens qui se disent croyants, qui disent qu'ils sont chrétiens, qui portent tout ça, et puis il n'y a rien de chrétien chez eux. Hein? Et leur comportement, parfois, est pire que ceux qui ne se réclament pas de Christ. Donc, ça ne va pas. Donc, cette parole, Hébreux 13:13, je termine avec ça, je le répète encore une fois, il dit « Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. Hein? » Je ne crains pas. Lui, il n'a pas eu honte, comme ça, dénudé devant tout le monde. Vous savez, c'est ça qui est le plus gênant quand il y a un accident sur la route, les blessés, et puis après les gens qui viennent là et tout ce qui regarde. C'est pas le moment où je veux être regardé. Mais Jésus-Christ a subi cela. Et les gens regardaient les curieux, puis les remarques et tout cela. Mais il a subi l'opprobre, c'est pour nous. Hein, donc maintenant, à nous de ne pas nous plaindre, et ne pas laisser freiner par les remarques des gens. Parce que leurs remarques seront vite passées, mais le dernier qui parlera, c'est bien Dieu. Et c'est à lui que nous aurons affaire. Donc, Christ a tout fait, il l'a bien fait, il a respecté les règles établies par Dieu jusqu'au détail, et la croix s'est passée comme ça devait se passer, et donc nous pouvons savoir, si nous mettons notre foi en Jésus-Christ, que nos péchés sont expiés et que nous sommes en état pour rencontrer Dieu. Alors, puisque nous le croyons, alors vivons comme des gens qui ont été rachetés et qui appartiennent à Dieu. Si vous ne l'avez pas encore demandé, il faut ouvrir la porte et prendre le paquet, hein, comme disait le frère tout à l'heure. Hein, c'est ouvrir la porte, prendre le paquet que Dieu offre. Je veux dire, Dieu, j'accepte. Je reçois ce que tu m'offres. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Je le reçois tout simplement. Par la foi, je te fais confiance, je te crois. Et tout d'un coup, tout nous appartient. Prions. Père Céleste, encore une fois, nous sommes reconnaissants à toi pour ce que tu as fait pour nous. D'abord, par la bouche de Moïse et par les cérémonies, nous avons pu voir le mécanisme et ce que tu as trouvé nécessaire pour permettre à l'homme d'obtenir le pardon de ses péchés. Tu as expliqué le mécanisme de la chose et ensuite tu l'as réalisé en Jésus-Christ pour nous. Et donc, nous savons que les choses se sont bien faites. Et nous pouvons croire que nos péchés sont pardonnés. Et si nous le croyons vraiment, nous devons vivre la vie d'un racheté de l'Éternel. Père, tu connais chaque cœur, tu connais chaque pensée. Et Seigneur, donne-nous de prendre prendre les mesures nécessaires pour cette vie nouvelle. C'est au nom de Jésus-Christ et à sa gloire que nous prions. Amen.